Et je pense que c'est arrivé, oui. C'est ça. Mais vous pouvez l'avoir à la soirée. Si vous voulez bien, nous allons commencer par l'avant-dernier cœur de la Tentate de l'Apocalypse, et puis nous commencerons au cours de tout. Thank you. le texte de la fois passée, et maintenant je vous donne de nouveau 4 pages, puisque nous prospectons maintenant, nous sommes en avance, et donc la dernière fois, la fois prochaine, je vous donnerai de nouveau le texte jusqu'à la fin de la réflexion que nous allons faire aujourd'hui et la fois prochaine. Donc je vous avais parlé, vous avez dans le texte qui vous est donné, je vous avais parlé des villes dans l'Apocalypse et du sens que ces villes peuvent avoir. C'est vraiment la société telle que nous la vivons dans les grandes villes. C'est là que l'on rencontre les hommes. Et si, justement, dans le début de la Bible, vous trouvez d'abord un jardin, et à la fin de la Bible, une ville, c'est pour vous montrer que toute l'histoire de l'homme, en quelque sorte, toute la civilisation, passe du jardin à la ville. C'est-à-dire d'endroit où on est encore un peu enfermé. Le jardin est toujours un jardin clos dans la ville, où l'on est encore enfermé à travers l'intérieur de certaines limites. Et l'on passe de là dans la ville, où, et d'une ville ouverte encore en plus, d'une ville qui est accueillante de l'humanité entière. Donc ces villes dans l'Apocalypse, ce ne sont pas seulement de petites entités, c'est une manière d'exprimer ce qu'est l'humanité. Et nous retrouvons partout cette humanité. Et alors, je vous avais parlé la fois passée aussi de la stratégie spirituelle de l'Apocalypse, en entendant par là que lorsqu'on se trouve dans la difficulté, dans le marasme, dans la persécution, puisque c'est la situation de ceux auxquels Jean s'adresse, on a besoin d'un poumon, on a besoin d'air, de respirer un peu autre chose. On a besoin aussi, vous le dites vous-même, de se changer les idées. Et on trouve un autre environnement. Et justement, le langage de l'Apocalypse et toutes ces images, c'est pour nous faire trouver un autre environnement, non pas un autre environnement concret, mais un autre environnement de nos idées, de notre mentalité, de notre perception des choses. Et nous avons là un langage alternatif à notre situation pénible. Ce langage alternatif, ce sont des images de l'Apocalypse que nous ne pouvons en tout cas pas prendre au mot de façon fondamentaliste, mais qui sont évocatrices de situations. Il ne faut pas se braquer sur les images, mais au contraire, essayer de découvrir l'amplitude de ce qu'elles veulent suggérer, beaucoup plus que donner des images. Nous arrivons maintenant, si vous voulez bien, à la conclusion du livre. Cette conclusion est double, nous allons voir tout de suite. Je vous lis d'abord la première partie de cette conclusion, et puis il y aura encore ce que on appelle généralement dans nos Bibles un épilogue. C'est au verset 6 du chapitre 22, le dernier chapitre. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le il, c'est toujours l'ange qui conduit Jean le visionnaire. Ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a dépêché son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Ce qui doit arriver bientôt. La semaine passée, à la fin du cours, où j'avais montré, j'avais même insisté sur l'actualité de l'Apocalypse, ça ne vous dit rien de ce qui doit arriver dans le futur. Ça ne nous dit rien sur la fin du monde, même s'il y a des images un peu étranges qui semblent le suggérer. Non. Il s'agit de notre réalité d'aujourd'hui et de l'impact qu'a la mort et la résurrection de Jésus sur notre vie courante d'aujourd'hui. Et une question qui m'a été posée par plusieurs la fois passée, alors, il ne faut plus croire en l'au-delà. Mais si justement c'est l'au-delà qui conditionne notre aujourd'hui. Nous pouvons bien sûr croire en l'au-delà, mais l'au-delà est encore à venir. C'est une promesse, et c'est toujours une promesse qui déborde ce que nous pouvons nous-mêmes en saisir. Nous reviendrons la fois prochaine encore là-dessus. Donc l'au-delà, il existe, puisqu'il conditionne notre aujourd'hui. Il y a une fin, mais ce qui est important, c'est de vivre aujourd'hui dans l'esprit de cette fin. Alors nous y serons préparés, et cette fin sera simplement l'entrée dans le royaume des cieux pour nous. Et donc, ce qui doit arriver bientôt, mais ce bientôt, cet accru en vitesse, pour le traduire comme ça, ce qui doit arriver bientôt, ce n'est pas ce qui doit arriver peut-être lointainement, c'est ce qui est tout à fait proche. Notre mort est toujours proche. Elle est là, devant nous, comme une réalité avec laquelle nous pouvons avoir une grande paix. C'est paisible de s'accomplir. Souvent, cette idée de fin, nous n'aimons pas la fin d'une chose. C'est parce que nous le voyons comme quelque chose qui se termine. Mais notre vie ne se termine pas. Et la présence de Dieu, elle n'est jamais épuisée. C'est d'ailleurs pour cela, et il y a une question qui m'a été posée et à laquelle je réponds tout de suite, Dieu est toujours neuf pour nous. Nous n'aurons jamais fini d'en faire le tour. Et nous pensons souvent que l'au-delà, c'est comme un grand spectacle. Non, c'est une vie, c'est un dynamisme. Nous n'aurons jamais épuisé Dieu. Et donc, il ne faut pas nous enfuir, on ne pourra pas s'ennuyer. Il ne s'agit pas de cela. Mais nous imaginons toujours les choses en les ramenant à notre aujourd'hui un peu pénible, ou en tout cas limité. Voici que mon retour est proche. Mon retour est proche. Ce terme de retour signifie beaucoup de choses dans la Bible. Revenir, retourner. Le retour connote toujours l'idée ou l'image, comme vous voulez, du retour d'exil. L'exil est terminé et on revient. On revient dans son pays, on revient vers les siens, on revient vers soi-même. Et revenir vers soi-même ou revenir vers Dieu, c'est se convertir. Mais se convertir, qu'est-ce que cela veut dire? C'est retourner vers quelqu'un qui nous aime et quelqu'un qui est présent en nous. Nous convertir, c'est nous trouver vraiment. Nous nous cherchons toujours, en quelque sorte. Nous courons toujours un petit peu après notre queue. Et nous faisons des tours. Vous connaissez cette légende d'un homme qui était parti de chez lui et qui cherchait à travers le monde une petite maison blanche aux tuiles rouges, avec un boulot devant la porte. Il cherchait ça. Et il fait le tour du monde, et puis un beau jour, il arrive devant une petite maison blanche avec des tuiles rouges et un boulot devant sa porte. C'était sa propre maison. Il l'avait trouvée. Et c'est un petit peu comme cela. Nous nous trouvons en nous cherchant à l'intérieur, en laissant cette présence divine s'épanouir à l'intérieur de nous. Notre vrai moi, nous ne le trouvons qu'en lui. Il est le seul à prononcer notre nom comme il faut. Voyez, c'est cela mon retour. Mon retour est proche. Le retour du Seigneur, c'est son retour vers nous, c'est notre retour vers lui, et c'est notre propre retour à nous-mêmes. Et alors, nous sommes gâtés dans la finale de l'Apocalypse. Nous avons deux béatitudes encore. Il y en avait cinq jusqu'ici. Il nous en reste encore deux à découvrir. Nous verrons encore la fois prochaine le sens de ces béatitudes. Heureux. Déjà au premier chapitre, au verset 3, nous avions un en heureux et qui est tout à fait semblable à celui de notre verset du chapitre 22. Heureux celui qui retient les paroles prophétiques de ce livre. Retenir des paroles prophétiques. Retenir, c'est bercer dans sa mémoire. C'est découvrir le sens de ce qui traîne, de ce qui est vivant au cœur de notre mémoire. Heureux celui qui retient les paroles prophétiques de ce livre. Qu'est-ce que nous avons retenu? Peut-être quelques phrases, c'est tout. Bien heureux celui qui les retient. Ces phrases qu'il a retenues sont des phrases qui lui parlent. Et donc ce sont des phrases qui nous sont proprement adressées. C'est moi Jean qui voyait et entendait tout cela. Et voilà, c'est comme une signature. Jean, nous ne savons pas encore très bien qui il est. Nous disons qu'il est l'apôtre de Jésus, le fils de Zébédée. C'est possible. Ce n'est pas absolument certain, ce n'est pas prouvé. Est-ce que c'est le même qui a composé l'évangile et les trois lettres? C'est bien possible. En tout cas, ça émane de ce milieu-là. Ça, nous pouvons en être sûrs. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Or, nous nous rappelons quand même que dans l'évangile de Jean, au chapitre 19e, au moment où Jésus vient de mourir, nous retrouvons également comme une signature de celui qui a vu, témoigne de ce qu'il a vu. Et son témoignage est vrai. Et toute son église, sa communauté, et nous savons qu'il dit vrai. Eh bien, nous trouvons quelque chose de très semblable. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de parenté entre l'évangile de Jean et l'Apocalypse. Donc c'est moi Jean qui voyait et entendait tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange. C'est déjà arrivé au chapitre 19e. Pourquoi il insiste, nous allons voir. Je tombais au pied de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais on n'adore pas l'ange. L'ange est une médiation. On adore Dieu que l'ange annonce. Qui m'avait tout montré pour l'adorer. Comment on peut dire merci à cet ange? Et on dirait que Jean mélange un petit peu et identifie l'ange à cette présence de Jésus qu'il a vu. C'est ce que nous faisons, mais c'est bien pour cela qu'il insiste encore. C'est ce que nous faisons lorsque nous lisons l'Apocalypse d'une manière fondamentaliste, en nous attardant aux détails, aux images, et en les comprenant avec notre petite intelligence mesquine d'aujourd'hui. En ramenant tout à nous. Non, nous ne pouvons pas adorer l'ange, nous ne pouvons pas attacher à ces images de l'Apocalypse une valeur, comme si c'était le contenu. Non, ce sont des suggestions. C'est pour nous mettre dans l'ambiance. Mais lui me dit non, attention, je suis un serviteur, comme toi et tes frères. Les prophètes et ceux qui retiennent les paroles de ce livre, c'est Dieu qu'il faut adorer. Donc retenons les paroles de ce livre et découvrons en nous, précisément à partir de ces paroles, cette présence de Dieu qui nous habite. Il me dit encore, ne tiens pas secrète les paroles prophétiques de ce livre. Car le temps est proche. Qu'est-ce que c'est que ce temps qui est proche? C'est cette urgence de la présence de Dieu. Je reprenais tout à l'heure la question. Dieu est toujours neuf pour nous. Mais Dieu, nous ne pouvons le découvrir que petit à petit. Dans la mesure où nous nous familiarisons avec lui, nous découvrons sans cesse des aspects nouveaux. C'est ce qui se passe aussi lorsque nous vivons avec quelqu'un, avec notre conjoint, notre personne, que nous croyons peut-être, et nous ne nous laissons pas étonner tous les jours. L'amour, c'est le chemin de l'étonnement continuel. Et ici, c'est pareil. Dieu, toujours meurt pour nous. Comment le découvrir? En le laissant parler, en le laissant exister en nous. Vous vous souvenez de cette parole d'un rabbin que je vous ai déjà cité, où son étudiant, son disciple, posait la question « Où est Dieu ?» Mais après avoir essayé de débattre un peu où Dieu était, on disait qu'il est partout, il est ceci et cela, il est au ciel. Et le rabbin simplement dit, partout où tu le laisses entrer. Et c'est cela. Si je le laisse entrer, si je suis ouvert, je pourrais le découvrir toujours davantage, toujours neuf. Et alors il y a cette phrase un peu étrange au verset 11, et que nous avons aussi la tentation de prendre de façon fondamentale au premier degré, que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme devient vivant encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ce sont toutes sortes de situations qui sont mises en opposition l'une avec l'autre. C'est ce qu'on appelle dans la Bible une figure polaire, une figure littéraire polaire. C'est-à-dire qu'on parle d'une manière de vivre et de l'opposé. La tête et la queue. La tête et la queue, ça veut dire l'ensemble de l'animal dont il s'agit. Et ici, c'est la même chose. Quoi que ce soit qui vous arrive, que vous péchiez, que vous vous souilliez, que vous fassiez le bien, ou que vous sanctifiez, les choses se font. Donc n'ayez pas peur, pas de panique, la réalité se vit. Elle est parfois terrible, elle est parfois même tout à fait horrible. Elle se fait, elle continue. Et le Seigneur a la haute vue sur les événements. Donc, que le pécheur pêche encore, que l'homme souillé se souille encore, que l'homme devient vivant encore dans le bien et que le saint se sanctifie encore, quelles que soient les situations, dit autrement, voici, mon retour est proche. Le Seigneur vient. Vous l'avez entendu dans le chant, le Seigneur vient. Voici que mon retour est proche. Et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. C'est vrai que Dieu ne dépend absolument pas de ce que nous faisons. Il est d'une liberté absolue, mais d'une liberté tendre et délicate et attentive à chacun d'entre nous. Mais ce que nous faisons pour nous ouvrir, ça, c'est important. Non pas le salaire qui serait comme une contrepartie. Dieu n'a rien à nous donner en contrepartie sinon sa présence. Et nous n'avons rien d'autre à découvrir sinon sa présence. Donc ouvrons-nous le plus que nous pouvons. Voici que mon retour est proche et j'apporte avec moi le salaire. Oui, mais attention, salaire et récompense dans la Bible. Mon salaire, c'est de faire ce que j'ai fait. Ma récompense, c'est de faire ça. C'est pas autre chose qui serait meilleure que lui. Mais bien sûr que le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. En proportion est plus ou moins bien traduit. C'est-à-dire en m'ouvrant moi-même à son travail. Je suis, et nous avons déjà vu cette expression dès le début, l'alpha et l'oméga. La première et la dernière lettre de l'alphabet. Et l'alphabet raconte toute notre histoire. Je suis le début et la fin. D'ailleurs, il le traduit. Le premier et le dernier, l'expression vient aussi de énième, le principe et la fin. Je suis la totalité de votre existence. Et voici que nous abordons la dernière des béatitudes, la septième. Heureux ceux qui lavent leur robe. Nous avons déjà vu que tous ceux qui faisaient la cour de l'agneau dans le ciel, dans la cour du ciel, tous ceux qui faisaient la cour à Dieu et à l'agneau autour de son trône, qu'ils avaient lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Généralement, le sang tache plutôt. Mais voyez, c'est une manière de dire laver sa robe, c'est vraiment se laisser absolument transformer, transfigurer. La robe étant ce qui exprime à l'extérieur notre réalité intérieure. Ceux qui lavent leur robe ou leurs vêtements, heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils pourront disposer de l'arbre de vie. Vous vous rappelez cet arbre de vie qui était au centre du paradis, chapitre 2 et puis chapitre 3 de la Bible. Et ce chapitre, cet arbre de vie symbolise l'immortalité. Nous sommes faits pour l'immortalité. Nous sommes faits, comme dirait la tradition juive, chacun, chacune d'entre nous, pour être un Messie, une facette du Messie. C'est-à-dire de l'homme tel que Dieu le rêve. Car c'est cela le Messie. Et la figure du Messie, par excellence, c'est précisément Jésus, le Fils de Dieu. Ils pourront disposer de l'arbre de vie. Vous savez qu'après le péché, dans le mythe du Jardin d'Éden, après le péché, un Dieu met deux chérubins à l'entrée du Jardin d'Éden, justement pour qu'on ne vienne pas recueillir les fruits de l'arbre de vie. Eh bien, ce qui était le fruit défendu, en quelque sorte, pouvait pas, l'immortalité à laquelle on ne pouvait pas atteindre par soi-même, voilà qu'elle nous est donnée. Mais nous est donnée comme une grâce. Nous participons à cette immortalité de Dieu lui-même. Nous entrons dans son intimité et pénétrer dans la cité par les portes. Nous voyons bien que la cité représente le royaume de Dieu, et donc, heureux ceux qui lavent leur robe, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Ceux qui se laissent baigner par l'amour de Jésus mourant pour nous sur la croix. Et alors, comme il n'y a plus de poubelle à l'intérieur de la cité, ceux qui ont quelque chose à laisser, ils le laissent dehors. Vos mégots de cigarettes, s'il vous plaît, pas à l'intérieur. Voilà. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres, et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Autrement dit, dans le royaume de Dieu, il n'y a vraiment que de la lumière et du bien, parce qu'il n'y a que la présence de Dieu. Et donc, ce vers quoi nous allons, faisons le nôtre dès à présent. Ouvrons notre cœur, nous ouvrons notre vie à cette réalité. Donc voilà le sens de cette conclusion. Nous entrons dans la cité de Dieu. Et la cité de Dieu, c'est sa présence. La cité de Dieu, c'était Jérusalem. Pourquoi la cité de Dieu était-elle Jérusalem? Parce que c'était l'endroit où il y avait le temple du Dieu unique. Et donc, entrer dans la ville de Jérusalem, c'était en quelque sorte entrer dans les parvis du temple, c'est-à-dire nous approcher de la présence divine. Et maintenant, ceci est transposé. Nous voyons bien que ce temple a été détruit par les armées romaines. Donc, ce temple n'était pas la réalité finale. Ce temple n'était que l'image d'une réalité qui allait plus loin. Voyez, chaque don que le Seigneur nous fait est l'image d'un autre don qu'il veut nous faire. Il n'a jamais fini de nous donner, parce qu'il n'a jamais fini inutilisable. Et c'est cela, c'est de cela qu'il parle. Comment pouvons-nous découvrir dans notre petitesse cette grandeur de Dieu? En ouvrant notre petitesse à sa grandeur qui est déjà présente au cœur de notre petitesse. Mon retour est proche. L'abbé Savope, c'est un peu l'équivalent de ce que nous trouvons dans les évangiles, recevoir la robe de noces, le vêtement de noces. Le vêtement de noces, c'était un vêtement que l'on recevait quand on était invité. Peut-être bien qu'on était SDF, qu'on n'avait pas un beau costume à se mettre. Peu importe, on recevait le vêtement à l'entrée. Sauf si on ne voulait pas le recevoir. On refusait. Mais ça se distinguait tout de suite. Alors, mon ami, pourquoi es-tu arrivé ici sans robe de noces? Ça veut dire, tu te fermes, tu restes enfermé en toi-même. Alors, tu ne peux pas recevoir. C'est difficile de recevoir tout et de se recevoir véritablement d'un autre. Pourtant, c'est ça la clé de l'amour et la clé du bonheur. C'est pouvoir se recevoir d'un autre et des autres. Voilà donc le livre de l'Apocalypse. Mais il y a une seconde conclusion, et qui commence juste après. Nous avons remarqué dans l'Apocalypse qu'à certains moments, dans le ciel, et puis sur la terre, il y avait comme une célébration de louange autour du trône de Dieu et de l'agneau. Dans le ciel d'abord, avec tous ceux, cette foule innombrable qui avait accompagné d'abord les martyrs, et puis tous les vivants, tous ceux qui l'avaient suivi. Et puis nous avons vu à la finale, au chapitre 21, que ça se passait maintenant sur la terre, parce que le ciel descendait sur la terre avec la Jérusalem, qui descendait du ciel comme une fiancée parée pour son époux. Moi, Jésus, voilà que lui nous adresse à moi. Il était déjà présent, mon retour très proche. Et voici que il souligne cette venue. Mon retour est proche, il est là. Il est là dans cette célébration. Qu'est-ce que c'est qu'une célébration? Nous avons perdu le sens de ces célébrations, parce que nos célébrations, généralement, quand nous faisons la fête, c'est toujours à partir de nous. Et cette fête peut être réussie ou peut être un échec. Mais c'est à partir de ce que nous voyons. Moi, Jésus. J'ai envoyé mon ange. Nous avons vu que ces anges intervenaient constamment comme des médiations, ceux qui essayaient de faire passer la grandeur de Dieu à notre petitesse humaine. La célébration, c'est toujours l'expression dans l'ici-bas, avec les coutumes, les rites que nous avons habituellement, la célébration d'une réalité qui est toujours à venir, de cette grandeur de Dieu qui se trouve toujours plus loin, déjà présente, mais encore plus loin. C'est ça la célébration. Autrement dit, la célébration a toujours quelque chose de prophétique. Souvent, nous la refermons sur ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, les belles fleurs, l'ambiance, la musique, les chants. Mais ces chants eux-mêmes, ils sont une ouverture vers d'autres chants, toujours plus beaux. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Tout ce que vous avez entendu dans l'Apocalypse, c'est une grande célébration. C'est une grande célébration du monde, dans laquelle il y a un chemin à découvrir, une présence à vivre, un amour à revêtir. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. Et voilà que Jésus lui-même, qui s'adresse à nous, qui s'adresse à chacun d'entre nous, Jésus lui-même nous montre son visage. Je suis un rejeton de la race de David. On connaît bien ça. Isaïe parle souvent de cette souche de Jessé. Un rejeton de la race de David. Ça, c'est tout l'Ancien Testament qui est présent là, l'attente. Le rejeton. Et l'étoile radieuse du matin. L'étoile radieuse du matin, nous trouvons ça aussi chez Isaïe au chapitre 14, au verset 12, il s'agit de Lucifer, celui qui porte la lumière. C'est Jésus, Lucifer. Pas le Lucifer que nous avons en tête, celui qui est tombé, ça c'est pas bien. Hein? Chapitre 14 d'Isaïe. Mais Lucifer, le porte-lumière, c'est vraiment la présence de Jésus lumineuse pour nous. Voilà comment il s'appelle. Le rejeton de la race de David, et il dit par là son humanité. Et l'étoile radieuse du matin, et il dit par là sa divinité. Deux expressions qui sont déjà venues à travers le livre. Et puis, et ça, c'est l'entrée dans la célébration. L'esprit et l'épouse disent bien. L'Esprit, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, qui prend souvent la forme des sept esprits, c'est-à-dire de cette présence divine qui se trouve partout dans l'histoire humaine. L'Esprit. Maintenant, il a son nom propre. Et l'épouse, qui est la communauté, entière, l'humanité, disent « Viens ». Je ne peux dire à Jésus mort et ressuscité « Viens » que dans l'Esprit Saint, que si j'ai perçu combien cet amour de Jésus est en nous. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui écoute, ah ça c'est pour nous, hein. Nous écoutons le livre, nous le lisons, nous l'écoutons. Que celui qui écoute dise, viens, entrons dans ce viens. Et que l'homme assoiffé, c'est pas seulement celui qui écoute, mais tout homme assoiffé, tout homme en quête. Et ça, c'est pour l'humanité entière. Et que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie. Cette eau de la vie, dont nous savons que c'est l'eau qui coule du côté transpercé de Jésus, comme le dit encore au chapitre 19e, l'évangile de Saint Jean. Et que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie. Mais l'eau de la vie, c'est aussi l'Esprit Saint, cette présence intime de Jésus. Gratuitement. Je n'ai rien fait pour, sinon ouvrir mon cœur à sa présence. Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait faire des surcharges, Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre. Il ne faut pas mettre trop de commentaires, ajouter trop de commentaires au texte. Il ne faut pas essayer de comprendre le texte et de le ramener à nous, mais essayer de nous ramener au texte et de découvrir que nous n'aurons jamais fini d'en percevoir le sens. Qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte décrit dans ce livre. Autrement dit, celui qui voudrait mettre ce texte à sa propre sauce, il s'enferme en lui-même. C'est peut-être la meilleure traduction que je puisse faire de ce verset. Nous ne le prenons pas non plus à la lettre telle que nous imaginons. Le garant de ces révélations affirme, oui, mon retour est proche. Oh oui, viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Et vous voyez donc que ça se termine par une célébration. Et vous vous rendez bien compte que cette célébration nous renvoie à la célébration eucharistique. L'Eucharistie, c'est précisément cet ouvert-feu que nous faisons à la présence de Dieu qui vient en nous et qui donne sens à notre histoire humaine et à notre propre histoire. C'est une relation d'intimité. Et si nous pouvions comprendre ce qu'est l'Eucharistie et si nos jeunes aussi pouvaient en saisir quelque chose, ils découvriraient précisément que c'est une rencontre ineffable. La rencontre eucharistique, c'est un cœur à cœur extraordinaire. Mais pour cela, il faut comprendre que c'est le vivant qui s'approche de nous dans l'Eucharistie et que nous ouvrons notre cœur en disant « Viens, Seigneur Jésus ». Et c'est pourquoi je vous ai mis à la page 35 une liturgie finale que j'ai reprise au petit livre de Pierre Pigeon que j'ai cité de la traduction plusieurs fois et qui à la fin de son livre nous donne une traduction un peu plus suivant notre style d'aujourd'hui et il termine par ce texte. Je vous mets cette dernière page que je vous ai recopiée simplement. Le dernier chapitre, tel qu'il l'exprime dans une célébration eucharistique. Et Pierre Pigeon est un protestant. Donc c'est important de voir le sens que lui donne à ce livre qui est comme une eucharistie de la parole. Ainsi, mes frères, je lis seulement les deux derniers paragraphes, toute notre assemblée poussée par l'Esprit Saint fera monter cette prière au Seigneur, viens. Il leur répond, antiphonée, c'est-à-dire une réponse, répétera, viens. Puis l'officiant lira l'invitation, que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive de l'eau vive gratuitement. Nous nous avancerons pour le repas du Seigneur, tremblant d'y rencontrer le juge. Mais son jugement sonne comme une grâce. Nous nous avancerons pour goûter aux fruits jusqu'ici défendus que porte l'arbre de vie. Nous irons jusqu'au cœur de la sainte cité où Dieu est à jamais présent. Nous entendrons le Christ lui-même répondre à nos prières. Il dit, oui, je viens bientôt. Et dans le silence qui ouvre à sa venue, nos voix s'élèveront avec des mots plus frais que les mots des humains. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Viens, notre Seigneur. Viens, toi qui es venu jusqu'à nous. Alors, le célébrant prononcera la bénédiction, la grâce du Seigneur Jésus. Soit avec vous. Voyez, c'est dégagé par cette dernière conclusion de l'Apocalypse, c'est dégagé toute la valeur eucharistique de ce texte de l'Apocalypse. Il s'agit vraiment d'une Eucharistie où le ciel vient rencontrer la terre et où les humains sont transformés, repris qu'ils sont dans la mort et la résurrection de Jésus qui assume toutes les souffrances humaines. Alors pour terminer, c'est à la page 36, j'ai ajouté quelque chose que j'ai repris d'un livre qui a paru récemment, l'original américain avait déjà paru autrefois par un spécialiste de l'Apocalypse. Il a déjà écrit plusieurs livres et beaucoup d'articles sur le sujet. Il s'appelle Richard Baucam, La théologie de l'Apocalypse. Et justement, son dernier chapitre, que j'ai résumé en quelques lignes, enfin une page, à la page 36, nous dit, tiens, quelle est l'actualité de l'Apocalypse? Qu'est-ce que nous y avons trouvé, en quelque sorte? Et à quoi cet Apocalypse nous engage-t-elle, mais au concret, dans notre vie de tous les jours? Et je vous prends les différents points qu'il a repris, en les ajoutant l'un ou l'autre. Donc ce texte de l'Apocalypse, nous engage à purifier et à renouveler notre imaginaire. Nos images sont des images de notre monde, et nous sentons bien, les enfants le sentent très bien, hein, ils ont besoin de se donner d'autres images, et c'est pourquoi nous avons des bandes dessinées, ou des films qui reprennent des bandes dessinées, ou des guerres des mondes, etc. Pour purifier notre imaginaire, pas seulement nos idées, en identifiant la façon dont une culture dominante, nous vivons dans une culture dominante, en tout cas l'hémisphère nord certainement, se propose de construire le monde. Et justement, on m'a passé récemment un livre qui donne froid dans le dos. C'est un texte qui a été fait par une chrétienne qui se trouve à la tête du mouvement féministe chrétien qui s'appelle Marguerite Peters. Et donc elle a écrit un livre, je vous lis simplement l'argumentaire sur la couverture. Le livre s'intitule « La mondialisation de la révolution culturelle occidentale ». C'est un livre qui est destiné à devenir un manuel et notamment à l'adresse des Africains pour qu'ils ne se laissent pas contaminer plus longtemps au virus occidental. Une éthique nouvelle, laïciste dans ses aspects radicaux, s'est propagée partout dans le monde depuis la fin de la guerre froide. Cette éthique est le fruit des révolutions féministes, sexuelles et culturelles occidentales et du long cheminement de l'Occident vers la postmodernité. En Occident, la révolution a déjà accompli ses objectifs et semble même perdre son souffle. Nous le voyons dans tous les médias. Mais le front de la bataille s'est aujourd'hui déplacé dans les pays en voie de développement. Ce manuel, destiné prioritairement à nos amis africains, vise à fournir aux éducateurs les informations dont ils ont besoin pour acquérir, à la lumière de la loi éternelle inscrite par Dieu lui-même dans le cœur de tout homme, la connaissance et le discernement des concepts clés et des mécanismes opérationnels de la mondialisation de la révolution culturelle occidentale, c'est-à-dire l'imposition dans le monde entier d'un modèle athée, bien entendu, laïciste et de permissivité absolue. Il cherche aussi à encourager nos amis africains à être fidèles à ce qu'ils sont et en restant eux-mêmes à offrir au monde actuel un leadership qui leur est spécifique et qui est déjà attendu de tous ceux qui souhaitent revenir à la réalité, à la vérité et à l'amour. Mais justement, ce qui donne froid dans le dos, c'est jusqu'où le virus occidental, la mondialisation du profit occidental, jusqu'où il est allé. Et donc, nous avons aussi à réagir par une contre-culture, une culture de l'intériorité, une culture aussi de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi, c'est le deuxième point que je vous cite, nous préoccuper d'abord de la vérité de Dieu, avant de tout ce qu'on nous sert comme étant les vérités, à l'opposé de toute préférence. personnelle, bien consensuelle. Voilà, beaucoup de consensuels aujourd'hui. Hein. Ça a remplacé ce qui nous était imposé en quelque sorte du dehors. Mais face à un relativisme de désespoir ou d'indifférence, par rapport à l'importance de la vérité. Défendre une vérité pour laquelle, comme le dirait l'Apocalypse, on peut accepter de mourir. Et troisièmement, adopter une vision vraiment théocentrique, non pas tout centré sur nous, sur notre petite humanité, mais une vision théocentrique qui garantit précisément la dignité de l'homme contre l'absolutisation de certaines approches, la déification du pouvoir public, du pouvoir politique ou du profit économique. Faire référence à un Dieu transcendant. Quand nous parlons de Dieu, parlons-en avec respect, comme d'une personne qui promet un avenir alternatif. Vous avez bien vu la nouvelle création, la nouvelle Jérusalem, qui est l'avènement du royaume de Dieu. Mais parlons-en comme d'une réalité. Parce que c'est cela qui nous permettra de relativiser certaines structures injustes. Mais donc, il y a un engagement à faire. Il ne faut pas nous retirer de l'histoire humaine. Tenir compte des victimes de l'histoire. Les égorgés de l'Apocalypse, dans une solidarité à la fois sociale et économique, humanitaire, disons-nous aujourd'hui, engagée pour Dieu et son royaume contre tout ce qui est idéologie des puissants. Nous avons cette situation du Darfour, par exemple, qui se pose devant nous. Qu'est-ce que cela signifie que ce soit encore possible, que cette réalité soit sur la scène du monde, et proclamée par nos médias, et ça nous laisse indifférents. Et donc, à découvrir dans la théologie de la libération ce que peut signifier une option préférentielle pour les pauvres. Donc, non pas un retrait sectaire du monde, ou bien une évasion, dans toutes sortes de millénarisme, il y a des évasions partout maintenant. Mais dans l'optique audacieuse d'une conversion des nations contre une idéologie d'idolâtrie politique ou économique. Nous disons souvent, ça ne sert à rien. Nous ne savons pas à quoi ça sert. Mais ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas mesurer ce à quoi ça sert que nous ne pouvons pas nous engager. Orientation vers un royaume universel à construire. Nous le disons et c'est juste. Faisons-le. Il est advenu en Jésus, mort et ressuscité, mais donc essayons de le réaliser dans les conditions concrètes de l'histoire. Et donc pour cela, opérer la même critique prophétique au sujet de notre Église, de notre communauté et de nous-mêmes surtout, commencer par là. Même critique que sur le monde. Découvrir toutes les traces d'idolâtrie qui sont présentes dans nos vies. Il y en a encore beaucoup. Nous ne sommes pas encore tout donnés au Seigneur, tant s'en faut. Démasquer, nous reviendrons la fois prochaine, encore une fois, démasquer la fausse religion qui consiste à nous compromettre avec l'idolâtrie régnante. Et pour cela, en revenant sans cesse à cette relation profonde, personnelle avec Jésus, l'agneau immolé pour nous. Et ajoutons évidemment un témoignage vital à notre témoignage verbal, c'est tout à fait clair. Et donc envisager les changements de structure qui s'imposent. Et c'est pourquoi on peut voir qu'un engagement dans les réalités politiques, dans les réalités économiques et financières, peuvent avoir un impact, peut-être pas immédiat, et sur les médias aussi. Mais si nous ne réagissons pas, c'est-à-dire nous sommes d'accord avec cette révolution culturelle occidentale. favoriser les liens, mais ça c'est pour notre formation personnelle, entre création, rédemption et eschatologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous soyons persuadés que cette création est vraiment l'œuvre de Dieu et que nous sommes nous-mêmes une œuvre de Dieu. Et que, bien que blessés, nous sommes déjà achetés, c'est-à-dire nous sommes déjà repris dans l'amour. Et que cela s'ouvre sur une fin de cet amour, une ouverture absolue de cet amour. Saint Paul nous dit, à la fin, quand Jésus, victorieux de la mort, et aura rassemblé autour de lui tous les hommes, il remettra ce royaume à son Père. C'est de cela qu'il s'agit. Cette finalité de l'histoire humaine. Approfondir notre compréhension de Dieu comme Trinité, donc. Ce qui est à vivre, c'est vivre entre nous les relations trinitaires, les relations, Dieu n'est pas solitaire, Dieu est unique, mais il est communiste. Il n'est pas solitaire, il est communiste. C'est ce que nous dit précisément la doctrine de Jésus qui nous montre que Dieu est vraiment Trinité. La vivre, et la vivre dans notre entourage, la vivre avec tous ceux avec qui nous vivons. Donc vous voyez quelle ouverture nous pouvons avoir, qui est déjà, en quelque sorte, les prémices de cette présence de Dieu. Adopter aussi, et je termine par là, par une vision juste de la femme. La femme, dans l'Apocalypse, est extrêmement importante, vous l'avez vu. Elle est importante parce qu'elle symbolise toujours la société humaine et donc l'humanité. Réalité collective et réalité personnelle. Et je vous dirai, pour terminer à ce sujet-là, je vous lirai un passage d'un livre de Anne-Marie Pelletier qui s'appelle « Le signe de la femme » qui a été publié récemment chez Bayard, ou chez Auxerre, en 2006, et qui, justement, pour terminer, nous montre, d'après l'enseignement du pape Jean-Paul II, quelle est la tâche prophétique de la femme aujourd'hui. Elle intitule ce dernier chapitre « Pédagogue d'humanité, pédagogue pour l'Église ». Ce sont des termes qui sont utilisés par Jean-Paul II, justement, notamment dans sa lettre aux femmes. Mais, écrit-il, si le temps a enseveli les documents qui portent la trace des cultures, il est impossible de ne pas sentir les effets bénéfiques dans la sève dont furent nourries les générations qui se sont succédées jusqu'à nous. Clairvoyance acquise par un homme qui a vécu dans une société soumise à l'épreuve du totalitarisme et pas précisément de Jean-Paul II. Clairvoyance acquise par un homme qui a vécu dans une société soumise à l'épreuve du totalitarisme et qui sait l'expérience ce qu'il en est de la force de résistance des femmes. Ce n'est pas du tout impossible. En tout cas, le souci est clairement affiché de ne pas tenir compte seulement des femmes importantes et de renommée qui ont vécu dans le passé et qui sont nos contemporaines, mais aussi des femmes simples qui développent leur talent féminin au service des autres dans la banalité du quotidien. De façon appuyée, le texte parle en effet de mission des femmes. Il porte l'affirmation forte de la fonction d'éducatrice qui est la leur. L'humanité a besoin d'apprendre des femmes. Telle est sur ce sujet la plus haute conviction de Jean-Paul II. Il l'exprime volontiers en référence à la Vierge Marie, mais pour rejoindre, à travers la Mère du Christ, la foule immense des femmes de l'Église, nous retrouvons l'Apocalypse. laquelle il choisit de s'adresser ici, sur le mode le plus résolument personnel, une lettre. Il reconnaît le visage démultiplié d'une féminité qui peut être encore plus que l'homme, voit l'homme parce qu'elle le voit avec le cœur. La femme voit l'homme, écrit encore Jean-Paul II, indépendamment des différents systèmes idéologiques ou politiques. Elle voit avec sa grandeur et ses limites, et elle cherche à venir à sa rencontre et à lui être une aide. C'était le terme qu'il a utilisé dans la Genèse pour montrer comment la femme, Ève, pour ne pas la nommer, la femme devient une aide, comme une aide de l'homme et comme son vis-à-vis. Voilà, nous terminons là aujourd'hui. À la semaine prochaine, nous tirerons encore quelques conclusions et surtout sur le sens des sept béatitudes de la terre.